Radio Okapi.
Okapi. Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, c'est parti pour la deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. J'avais annoncé tout à l'heure que nous allons, on va parler des tracasseries policières sur nos routes. Bien, il y a changement des sujets parce que la plupart des invités ne sont pas disponibles. On va revenir dessus, on va revenir là-dessus prochainement. Eh bien, qu'est-ce que nous vous proposons à la place? On va parler de la tricherie. La tricherie lors des épreuves de l'examen d'État. Comment prévenir la tricherie parce que les élèves se préparent déjà à passer les hors sessions. Et en ce moment, les laboratoires aussi sont en train de fonctionner déjà. Toutes les batteries sont en marche pour bien organiser, orchestrer la tricherie. Eh bien, comment démanteler tout cela, éviter tout cela? Eh bien, nous allons en parler avec Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Young Men Association for Education, IMAE en sigle. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, les candidats finalistes de l'année scolaire de l'année scolaire en cours, je veux dire, les finalistes du secondaire, ça s'apprête à passer les épreuves hors session de l'examen d'État prévu du 12 au 21 juillet prochain. Dans les établissements scolaires, les candidats et les promoteurs se mobilisent déjà pour passer les épreuves, passer l'oral et les jurys pratiques. Et il y a déjà, d'après les informations reçues, il y a déjà quelques labos qui fonctionnent déjà pour bien orchestrer la tricherie, pour s'organiser afin que tous les élèves puissent réussir avoir des bonnes notes, n'est-ce pas, lors de ces épreuves. Alors comment contrer la tricherie lors de l'examen d'État? Serge Bondedi, vous êtes en ligne, bonjour.
Papa, je vous dis.
Vous êtes le secrétaire général de l'ONG IMAE et coordonnateur de la campagne École ESA Mombongote. L'école n'est pas un business. Alors dites-nous, la tricherie se prépare, on suppose que pendant cette période où les élèves se préparent à passer les épreuves, bon, les tricheurs aussi se préparent. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour contrer la tricherie?
Effectivement, la tricherie se prépare comme de coutume. Chaque année, à chaque édition, nous assistons à une tricherie savamment orguiée ou organisée et qui est même devenue institutionnalisée parce que tout le monde trouve son compte et les diplômes d'État ne vaut plus rien. Ne vaut plus rien parce que le mécanisme pour l'obtenir ne sont plus rigoureux. Alors comment mettre fin à cette tricherie permettez-moi de les dire, qui ne restent pas sans conséquences, parce que de nos jours, je crois que même le propos du chef de l'État l'ont étayé, que l'ampleur de la corruption dans notre pays, il a dit à vos confrères qu'ils n'en savent pas la teneur, parce que c'est horrible dans notre société. Et ça fait partie des conséquences de la tricherie au niveau de l'école et au niveau de l'examen d'État, pour être plus précis. Alors il faut mettre fin à cette tricherie pour que la société rentre dans ses rails. Et vous savez, cette tricherie a des causes. Il faut donc s'attaquer aux causes pour que dans la durée, les choses s'arrangent convenablement. Et parmi les causes de cette tricherie, parce que il y a un élément important, c'est celui de comment s'organise la délibération de l'examen d'État, et avant d'y arriver, la délibération ou les délibérations dans nos écoles. Ça fait partie des causes, parce que l'examen d'État, on fait sortir du pipeline, mais avant d'en sortir, il y a un circuit, il y a un processus, il y a un amont où on commence à partir de l'école maternelle, comment les choses sont organisées. Il faut qu'au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, puisque l'actuel ministre parle du redressement et de la rupture avec les antivaleurs, nous pensons qu'il est important pour le gouvernement d'ouvrir l'œil dans les conditions ou les mécanismes de délibération déjà au niveau des écoles. Il faut qu'il y ait la rigueur. Mmh. Il faut qu'il y ait la rigueur pour que la méritocratie règne. Et lorsque la méritocratie va régner, cela aura des effets au niveau de diplôme d'État.
Alors Serge Bondé dit, est-ce qu'on peut dire que la tricherie s'organise déjà en ce moment lors des hors-sessions ou bien c'est pendant la grande session?
Tout se prépare, tout s'organise. Je vous cite le cas, par exemple, des épreuves de français orales. Mmh. Et lorsque les enfants y entrent, tout se prépare, parce que il faut permettre à ce que les enfants ne soient pas d'une école donnée, ne subissent pas l'humiliation, pour que lorsque on va proclamer cette école avoir réussi à 100%, qu'il n'y ait pas de voix de contestation. Et qu'est-ce qui s'est fait, même dans les épreuves des hors session, c'est-à-dire que on va déjà donner aux enfants le texte qui seront soumis à leur épreuve, qui va constituer leur épreuve durant la session ou l'étape de la lecture, pour que ces derniers se préparent, et on va aussi leur communiquer des questions qui seront posées, qui ont trait à l'étude et à la compréhension du texte. Oui. Et lorsque ces enfants disposent de ces textes, lorsqu'ils arrivent dans la salle d'épreuve ou d'examen, qu'est-ce qui se passe en termes de cette tricherie organisée? On vous donne un texte pour lire. L'enseignant ou l'évaluateur qui sait qu'il est en face d'un enfant qui n'est pas à la hauteur de lire convenablement, parce que l'école lui a déjà communiqué les enfants défaillants.
Allô? Il va fermer les yeux sur les insuffisances de l'enfant.
Effectivement, c'est-à-dire que dès que l'élève va entamer sa première phase de lecture, et puis il va arrêter la lecture pour commencer à l'étape de questionnement. Et ce sont des questions qui ont été ciblées, qui sont ciblées en avance, et avec des réponses déjà bien programmées pour que l'enfant y réponde et n'ait pas passé suffisamment du temps. Et ce qui est encore fort dommage, lorsque les candidats sont énormément nombreux, au lieu de respecter les timings d'évaluation, on fait passer les choses à la va-vite, et c'est fort dommage. Ça, c'est au niveau de l'épreuve des Français. Pour ceux qui sont dans le filière technique, c'est encore plus grave. Ceux qui sont dans le filière technique avec l'épreuve de jury pratique, tout s'organise déjà en amont. Ceux qui sont dans l'hôtellerie, les évaluateurs savent déjà avec les écoles ce que les enfants vont préparer, et surtout que dans ce bénéfice de la tricherie, surtout ceux qui font la restauration, à la fin, les évaluateurs savent qu'ils rentrent avec des marmites dans leur maison parce que il n'y a pas de rigueur. Ceux qui sont dans la mécanique, dans l'électricité, on vous communique déjà la série des questions. Et ce qui est encore plus grave, je peux vous révéler que dans ces épreuves de jury pratique, mais c'est du n'importe quoi, parce que en réalité, il n'y a même pas de l'évaluation, il n'y a même pas de l'examination. Ce sont des points que des chefs d'établissement déjà préparent et communiquent aux inspecteurs. Ces inspecteurs ne font absolument rien. Je vous le confirme et je vous l'affirme, tout en mettant quiconque à défi. Les inspecteurs, lors de jury pratique, ne font rien. Ils reçoivent le point qui sont préparés en avance par le chef d'établissement, et lorsqu'ils reçoivent ces points, ce sont des enveloppes qui viennent comme annexe, et ils transposent juste le point communiqué par le chef d'établissement. Oui. Et c'est ça l'examen d'État en République démocratique du Congo.
Donc ce sont les chefs d'établissement, eux, qui cotent déjà et qui transmettent les points.
Effectivement, ils cotent déjà en avance, et lorsque l'évaluateur vient, on lui communique ses points, il fait juste la transposition, et avec son enveloppe, il repart, et c'est ce qui se fait dans les épreuves hors session de jury pratique. Lorsque vous êtes à la dissertation, mais dans des salles, il est rare de voir des enfants qui sont compétents pour cogiter ou traiter un sujet de dissertation. C'est extrêmement grave, mais ce sont les mêmes enfants qui s'en sortent avec des points vraiment rocambolesques, 70, 75, 80, et déjà au-delà de fuite des sujets qu'on leur accorde, oui. Mais ils sont incapables d'aborder l'épreuve de la dissertation. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On essaye de revoir les copies en complicité avec les chefs de centre et les chefs d'établissement, qui revoient les copies après que les enfants aient fait de bêtises lors de l'épreuve hors session de la dissertation, pour qu'on essaie un peu de déranger de sauver le maître. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas que la session ordinaire. Au niveau des épreuves de hors session, c'est aussi les 14.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Comment lutter et prévenir la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État, surtout lors des épreuves hors session? Débernice, vous êtes à Mouenéditou, Benjamin à Kananga. Débernice, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à l'invité du jour.
On vous écoute.
Ah, merci beaucoup. Quand demain vous avez introduit le sujet d'aujourd'hui, j'ai beaucoup rigolé. Parce que quand nous voyons à cette période, les enfants sont debout et aussi les enseignants sont debout, de manière que leur école puisse avoir un grand nombre de diplômes. Mmh. Alors, ce que moi j'ai pu proposer, parce que nous trouvons aujourd'hui les finalistes d'aujourd'hui sont un peu incapable à l'écrit. Alors, le seul moyen que l'on devrait faire, c'est seulement de reprendre notre système de tradition là-bas, donc d'une manière traditionnelle. Donc, on voit seulement comment chaque finaliste est en train d'écrire. Là, on doit un peu lutter, parce que quand nous avons des séries, on connaît que la première question, tu dois prendre A. Et deuxième question, tu prendras B, par exemple. Okay. Ça nécessite pas que l'enfant puisse avoir un bon diplôme. Donc, pour lutter...
Donc, qu'on ne puisse pas recourir aux choix multiples, que ce soit...
Oui, qu'on puisse un peu éviter les choix multiples. Parce que les choix multiples donnent beaucoup de réponses. Donc, quand on est dans le centre... On envoie seulement la question, on dit « Ok, prenez seulement numéro 1 ». Comme nous avons déjà cette série-là en dehors du centre, prenez ça. Donc, ça, c'est un peu ce que je peux proposer au gouvernement. Donc, les examens traditionnels, ça va bien.
Bien, merci. Benjamin de Kananga, bonjour.
Bonjour Daniel Kachama, bonjour à l'invité, bonjour à tous les invités de la Radio Capi.
On vous écoute.
Merci beaucoup, cher Jody. Moi, je pense que le sujet, il est vraiment pertinent parce que le secteur de l'enseignement est gangréné de beaucoup d'antivaxistes lors des épreuves, lors de l'examen d'État, même lors de la dissertation, parce que moi qui vous parle, je suis dans les mêmes secteurs. Mais monsieur Jody, aujourd'hui, le diplôme même qu'on donne à nos finalistes, ce sont des diplômes qui sont donnés sans tenir compte même des niveaux de nos enfants. Aujourd'hui, il y a un système tel que lorsque les élèves s'apprêtent déjà pour présenter la dissertation sur l'examen d'État, il y a le système qu'on appelle la caisse. Je me rappelle, dans l'une des écoles ici au centre-ville, la sixième qui n'a que 14 élèves, alors les élèves se sont fixés un montant de 80 000 par chacun pour mettre dans la caisse. Et il faut aller plus loin pour vous dire que...
Et qui gère cette caisse-là, Benjamin?
Oui, c'est là où je serai allé, monsieur, jeudi. Pour vous dire que même le responsable scolaire, on l'a même mise dans cette caisse-là. Maintenant, cet argent-là sert à quoi? Lorsqu'ils sont au maquis, en dehors de d'autres accessoires comme à manger, autre là, il y a encore un compte à part. Maintenant, avant même que les élèves n'accèdent à ça des amis, ils vont engager soit un enseignant, en complicité avec un préfet, avec même les promotions précédentes. Et maintenant, ils vont se convenir d'un certain montant d'argent. On donne cet argent-là. Et avant même que les élèves ne puissent être au centre, les carnets des examens d'État sont déjà sortis. Et ces carnets-là sont travaillés peut-être la nuit au maquis. Et que les enfants viennent au centre d'examen, ils sont déjà munis de cartouches pour commencer à tricher. Et là où, c'est là où il faut interpeller même les autorités, monsieur Jourdi. Parce que, demandez-vous, l'examen peut être sorti avant même que les élèves ne soient au centre Goma. Quand bien même, nous savons que ces carnets-là sont loges chez l'IPP, à l'immeuble de l'éducation. Donc, il y a une complicité entre l'inspecteur principal provincial, l'inspecteur et le chef d'établissement scolaire. Voilà pourquoi, monsieur, je dis parce que je me rappelle, ce n'est pas la première fois, nous en parlons beaucoup. Donc, c'est ici où l'État doit vraiment ouvrir l'œil. Parce qu'on
d'accord.
Peut travailler
le... Donc, il y a plusieurs caisses en ce moment qui s'organisent au niveau des écoles. Les élèves ont la caisse. Chacun apporte 80 000 francs congolais. Exactement. Pour le besoin de la tricherie. Alexis est... D'accord.
Il n'y a pas même deux jours que j'ai eu une discussion avec quelques finalistes. Ils m'ont confirmé cela, mais c'est jeudi. Et à la fin même des épreuves, là, certains montants d'argent sont donnés au préfet. Donc c'est vraiment urgent que l'État puisse ouvrir l'aide parce qu'on va remplir des millions et des millions de diplômes d'État chaque année, je dis, mais ces diplômés-là qui ne peuvent jamais être envoyés sur le marché qui n'ont pas de niveau.
Bien, on va accueillir Alexis de Kinshasa. Bonjour.
Je dis merci encore pour me redonner la parole dans cette deuxième partie de l'Ocapi Service. Excusez-moi parce que je suis en route pour la cacophonie des sons.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette affaire des tricheries?
Oui, par rapport à ce sujet ou à cette deuxième partie de l'Ocapi Service, ma contribution est la suivante. Moi, je pense que pour lutter contre la corruption, la tricherie lors des épreuves nationales, on devrait voir le nez du problème. Le nez du problème, d'abord, c'est la base, la maison, là où les enfants quittent. Vous savez que, M. Joldi, il y a nombreuses écoles ici au Congo où les enfants rentrent à la maison pour demander l'argent qu'on appelle l'argent des suivis. Et là, nous avons de preuves palpables. Donc, les enfants qui rentrent à la maison, tu es un parent, tu es un papa, tu es une maman, l'enfant qui rentre à la maison, au-delà de tout ce que tu as déjà payé comme Minerval, l'enfant vient te demander l'argent de suivi. Il y a des parents qui donnent comme ça, ils sont des sommes de 50 dollars, 100 dollars. Et ce sont les groupes des élèves. Ces groupes des élèves sont souvent secondés par les professeurs. Parce qu'actuellement, il y a d'abord une concurrence d'écoles. Les écoles font des concurrences. Donc, si chez nous, on fait maths, on aura beaucoup d'élèves l'année prochaine. Tout ça aussi, c'est une conséquence d'un laisser-aller de la part du gouvernement, de laisser beaucoup d'écoles en train d'être implantées au sein du pays, sinon aucun sous-passement. Et c'est comme ça que nous retombons toujours dans une situation telle qu'il y a de tricherie. Et au départ, je dis, dès le début, je dis que c'est un problème aussi de l'éducation depuis la maison. Moi, quand je grandissais, je grandis dans une famille d'une mère éducatrice et enseignante, un père enseignant, et ils sont devenus inspecteurs jusqu'à là. La maman travaille même quand il y aurait épreuve ici, etc., dans un centre d'examen d'État. Mais j'ai toujours dit, ce sont les modèles pour nous autres, pour nous, les enfants. Moi, je vous dirais que l'on commence d'abord par fermer toutes ces petites boutiques-là, soi-disant écoles. Parce que à cause de la concurrence, que ces écoles-là se laissent emporter dans des associations, dans des magouilles, pour envoyer des enfants à la maison, demander l'argent des suivis. Et aussi même là où l'argent part. Vous savez que la tricherie ou la sortie des questionnaires, des examens d'État, c'est d'abord de la source là. Il y a des grandes personnalités là-bas qui ont beaucoup d'argent, qui sortent, des gens là qui sont à la régie, à la saisie, à l'impression de ces questionnaires là, qui sortent ces examens là, ça ne vient pas d'ailleurs. Donc il faut voir d'abord le problème à ce niveau là et aussi descendre au niveau de la maison pour donc aider les parents à ne pas laisser les enfants venir demander l'argent de suivi. Parce que quand vous donnez l'argent, déjà vous avez déjà encouragé la corruption.
La corruption. Ouais. D'accord. Merci, merci Alexis. Serge Bondé dit, vous avez suivi. Il y a un auditeur qui propose qu'on revienne au système traditionnel au lieu des questions de choix multiples. Et puis il y a cette affaire de la caisse, l'argent de suivi que les enfants demandent aux parents, 80 000 francs congolais. Ils se cotisent en ce moment. Comment décourager tout cela? Et il y a même des parents qui donnent l'argent des suivis. Comment décourager tout cela?
Effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. En partant de la proposition du premier intervenant, il est vrai qu'au stade actuel, il faut redresser. Si je peux me permettre d'user du terme employé par le ministre des tutelles lui-même, Tony Mwaba, il parle du redressement. Nous pensons qu'il est important de redresser au stade actuel les conditions de passation et de l'organisation de cette institution examen d'État. Parce que il y a aujourd'hui, ça ne vaut plus son pesant d'or. Et effectivement, le caisse existe. Nous avons réalisé une deuxième enquête qui était axée sur les anciens élèves. S'agissant de frais de suivi, sur 60 étudiants interrogés à Kinshasa, 53 ont reconnu que leurs parents étaient au courant de la demande de frais de suivi et les parents leur ont apporté ou leur les avaient financés. 53 anciens élèves finalistes de l'examen d'État. C'est 7 sur les 60 qui avait dit non. Donc, nous avons dégagé moins de 88,3% des cas où ça démontre que les parents étaient au courant de la demande de frais de suivi. Et ce suivi, c'est vrai que les écoles privées, il y a à boire et à manger, mais les grandes écoles sont aussi dans la danse. Parfois, elles ne demandent pas à haute voix, mais ce qu'ils font lorsqu'ils fixent le frais des scolarités, dans leur clé de répartition, ces grandes écoles de la République démocratique du Congo sont dans cette danse. C'est-à-dire qu'ils savent que dans ce que les élèves de sixième, hier qui est appelé sixième année secondaire, aujourd'hui quatrième humanité, payent, il y a $50 de quotité, 30, 20 qu'il faut verser pour les opérations de la réussite à l'examen d'État. Et cela permet à ces grandes écoles de disposer, comme l'un des auditeurs a dit, en avance des carnets des items. Et vous voyez un peu. Et cela permet à ce que ces écoles puissent être les mêmes qui ont toujours des lauréats. Cela permet aussi à ces grandes écoles de financer les IPP, de financer des provinces. Parce que l'examen d'État est une occasion en or pour construire des maisons, pour s'enrichir. Et la caisse, effectivement, c'est ça qui permet aussi aux enfants de cotiser. Et quand les enfants cotisent avec la caisse, c'est principalement pour financer les labos. Les labos, c'est-à-dire, il y a pour financer les labos, pour financer la fraude qu'on appelle le frais technique. Et pour et dans les labos, ça permet à ce que quand les enfants sont dans la salle de passation de l'examen d'État, il y a un groupe d'enseignants sous-traités par le chef d'établissement qui travaille en télécommunication avec les enfants qui sont dans la salle de passation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des questions qui viennent, qui n'étaient pas prévues dans le carnet des items qu'ils avaient reçus par la voie des fouilles des items, on photographie les questionnements, on envoie ça à ces groupes d'enseignants, et les enseignants travaillent. Donc, c'est les labos qui fonctionnent. Mmh. C'est ça. Et pour motiver ces enseignants, c'est ça le prêt des labos. Et le prêt des labos va même au-delà aussi, parce que il y a chaque inspecteur est un parrain des écoles. Et là, c'est au plus haut niveau, c'est au niveau des inspecteurs principaux provinciaux, c'est-à-dire le représentant direct de l'inspecteur général au niveau d'une province éducationnelle, qui a les écoles qu'il défend. C'est-à-dire que il a dans sa mallette des écoles qui doivent réussir à 100% aux épreuves de l'examen d'État. Donc, tout ça, ça permet à ce que c'est IPP qui a ses bras puisse voir comment évolue cette école-là, comment les points, est-ce qu'il y avait des élèves défaillants, il faut arranger leurs copies, il faut revoir leurs copies. C'est de cette manière-là que ces frais des labos fonctionnent. En ce qui concerne l'alimentation ou le besoin ou le fin de ces caisses, s'agissant de frais techniques, dans ce que le gouvernement ou les gouverneurs provinciaux fixent comme frais, il y a aussi à dire là-dessus, parce que ça fait partie des causes qui alimentent la tricherie, il y a une quantité ou une demande de frais techniques. Mais il y a aussi en parallèle un autre frais technique qui est illicite et illégal. C'est quoi ces frais techniques? C'est-à-dire que c'est pour permettre les enfants, et là c'est pour ceux qui sont dans le filière technique, de se substituer à l'État. Vous savez, c'est-à-dire que là où il faut que les enfants disposent d'un moteur à vapeur pour être évalué, l'État qui est démissionnaire, déficitaire depuis des années, ne sait pas donner à une école ses moteurs à chaleur pour permettre aux enfants d'être évalués. Et ce sont les enfants, à travers ces frais techniques, qui vont acheter le matériel à la place de l'État. Et vous voyez, et donc l'agent de l'État qui vient à l'école, il est impuissant parce que c'est l'école qui achète tout. C'est l'école qui finance tout. Et ce prêt-là vient de ce qu'on appelle en parallèle le frais technique. Mais il faut aussi se poser des questions. Donc, c'est que le gouverneur de province reçoive dans la quotité ou dans la rubrique frais technique, qu'est-ce qu'ils en font avec? Donc, depuis des années, le gouverneur de province, ce n'est pas seulement les gouverneurs des provinces, les ministres nationaux de l'EPST sont alimentés directement par des IPP sous cette couverture de la compétence de gouverneur des provinces pour s'enrichir d'ailleurs l'examen d'État. Ils devraient en principe rétrocéder ce qu'ils perçoivent pour permettre à ce que les épreuves s'organisent convenablement. Mais malheureusement, ces frais permettent aux autorités politiques, ministres nationaux, gouverneurs des provinces, ministres provinciaux, de se construire des maisons à travers ces frais, ce qui fait que les écoles n'ont pas de la logistique, n'ont pas de moyens pour évaluer les enfants. Il n'y a même pas de tournevis pour les enfants qui font l'électricité. Il n'y a même pas de marmites pour les enfants,
Serge,
qui font la restauration.
On retient que pendant cette période des examens, donc l'argent circule comme pas possible. Et certaines personnes ils tirent des bénéfices énormes.
Énormément. Vous savez, l'examen d'État, comme il paraît, nous avons l'habitude de le dire, c'est un Lagos. C'est un grand rendez-vous de fonds. Parce que ça génère énormément de capitaux. Lorsque cet argent circule, vous avez des circuits de circulation des fonds. Vous avez les circuits officiels. C'est-à-dire que avant la préparation, l'inspecteur général se présente devant l'autorité politique et lui dit « Je vais organiser l'examen d'État pour l'impression des items, pour le convoyement des items, pour les compositeurs, pour ceux qui vont, le correcteur, il me faut autant. » Et l'enveloppe de l'État au niveau du budget national, c'est autant.
nous avons peut-être tel déficit, il nous faut un surplus des parents. Alors, il prépare les arrêtés, c'est préparé au niveau national et on envoie par des canaux officieux aux gouverneurs des provinces via leurs ministres provinciaux qui vont à ce moment-là produire le frais d'examen, plutôt les arrêtés. Et laissez-moi vous dire que même ici à Kinshasa, nous ne comprenons pas pourquoi le ministre provincial de la ville de Kinshasa, en charge de l'éducation, Mboutamoutou Charles Jetti, n'aime plus communiquer ses arrêtés aux organisations de la société civile que nous sommes. Ça frise vraiment le non-respect du partenariat et du manque de transparence, tout simplement parce que peut-être le suivi des monitoring qui se fera à ce point-là ne va pas les arranger.
Bien. Donc, un instant, je reviens à vous tout à l'heure. Que faut-il faire pour prévenir la tricherie, lutter contre la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État? Nous avons en ligne David Diatezoa, président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Congo. David Diatezoa, bonjour.
Bonjour.
On déplore souvent la tricherie lors des épreuves de l'examen d'État. On a suivi tout à l'heure, les auditeurs nous révèlent qu'il y a ce qu'on appelle la caisse. Les élèves mettent ensemble 80 000 francs congolais, mettent de l'argent de côté, qu'ils demandent aux parents, et les parents donnent, bien entendu, pour faire le suivi. Les écoles ont besoin de cet argent-là, le préfet, pour aller faire le suivi, afin que l'école puisse faire 100%. Que les enfants puissent réussir. On peut dire par là que les parents contribuent quelque part aussi à la tricherie.
C'est trop facile de mettre toujours toutes les manigances dans les écoles sur le dos des parents. Pensez-vous vraiment que moi, parent responsable, je puisse donner de l'argent à mon enfant à aller remettre à l'école pour la tricherie? Non! Faux et faux.
L'argent de suivi. Les parents donnent, les enfants demandent cela à la maison et les parents donnent.
Faux et faux. Nos enfants sont maintenant, malheureusement, embrigadés par le chef d'établissement qui leur inculque de mauvaises idées en tête et viennent demander innocemment de l'argent. Ce n'est pas à la fin de l'année qu'ils viennent. Pendant l'année, on nous a demandé ceci, les frais scolaires, on a payé, mais on doit faire des séances, des répétitions, des révisions avec nos enseignants pour mieux préparer l'examen d'État. Alors, il nous faut autant. On donne, ainsi de suite. Or que cet argent est pris et logé dans ce que vous appelez là frais de suivi. Il n'y a aucun parent responsable qui puisse aller donner à son enfant, je te donne l'argent pour faire le suivi afin que tu réussisses. Non, ça c'est faux. Mais ce sont justement nos chefs d'établissement et nos enseignants qui n'ont plus d'éthique morale, n'ont plus d'éthique professionnelle et qu'il faut faire des choses pour amener les enfants à aller mentir à leurs parents. Donc ça c'est un. Des deux, nous avons fait un mémo à son Excellence Monsieur le Ministre que nous avons soumis un mémo qu'il en a fait quoi soumis au ministre national en présence d'ailleurs du ministre provincial Charles Mboutamoutou. Nous avons dénoncé la façon dont sont organisées maintenant les épreuves certificatives, dont l'examen d'État et le TENAFEP. C'est devenu un véritable phénomène bilanga, où tout le monde vient puiser de l'argent dans les frais d'organisation des épreuves. Il y a d'abord les tricheurs qui sont préparés par les écoles C'est-à-dire, on prend des étudiants qui avaient déjà fait l'examen d'État, qui sont maintenant en G2 ou G1 ou G3, mais quand comme ils ont l'air frivoles là, et quand ils s'habillent en uniforme, on les confond aux élèves, donc ils viennent travailler dans la salle. Hein, donc certains promoteurs, chefs d'établissement, envoient déjà des mercenaires qui sont dans les salles d'examen d'État. Et c'est pourquoi nous avons dit au ministre, nous n'avons pas confiance aux surveillants qui sont mis dans les salles de classe.
David Diatezoa, beaucoup de surveillants sont impliqués dans la corruption.
Voilà, beaucoup de surveillants sont impliqués dans la corruption. C'est pourquoi nous aimerions voir dans chaque salle d'examen d'État la présence d'un parent surveillant. De telle manière que, comme nous les parents, nous sommes rigoureux et nous sommes contre la fraude, le deuxième surveillant, qui sera certainement un enseignant, aura peur de collaborer avec les enfants.
Parce que mais David Diatezoa,
les enseignants sont des grands collaborateurs avec les élèves depuis l'école. Hein? Les enfants motivent leurs enseignants, les enseignants les laissent tricher quand ils font les interros ou bien les examens de l'école. Alors, ils amènent ces mêmes pratiques dans les salles de passation des examens d'État. Nous avons exigé que dans chaque salle de passation, qu'il y ait au moins un parent. Mais nous sommes toujours minorisés lorsque nous nous réunissons avec nos amis.
David Diatezoa, on a appris que la plupart des surveillants sont des membres des partis politiques qui sont envoyés. Les partis politiques envoient...
Non, pas la plupart. Ils envoient donc les gouverneurs, les ministres provinciaux, les présidents des assemblées, et je sais quelles autorités recommandent auprès des provinces, des IPP, un certain nombre de surveillants qui sont soit des membres des partis politiques, soit des membres des familles ou des amis et connaissances à qui on veut donner un peu d'argent de transport et tout. Allez, ils viennent à la surveillance. Voilà aussi un autre chapitre pour lequel nous disons, nous ne voulons pas de tout ça. Nous voulons que dans chaque salle, qu'il y ait un enseignant et qu'il y ait un parent. Comme ça, les deux se neutralisent. Du moins, le parent neutralise l'enseignant. Et donc, voilà un peu à ce stade ce que je peux donner comme contribution. Et on va évoluer.
Bien. Je vous remets la parole. Serge Bondelli, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bloquer tous les tricheurs? On a suivi, on comprend que la plupart des écoles sponsorisent la tricherie en demandant aux enfants d'aller demander de l'argent aux parents et puis tout est orchestré à partir des écoles. Comment aujourd'hui neutraliser tous ces tricheurs-là, ces réseaux des tricheurs?
Oui, vous savez... Je vais un tout petit peu contredire Mbouta, David Diatezoa Pongi, que je salue, au fond de nos enquêtes. Vous savez, c'est un fait de société. De nos jours, nous, on ne comprend pas la fraude, mais nous avons un peu eu tous ces éléments. Vous savez, les parents investissent beaucoup pour la scolarité des enfants suite à la démission de l'État, et surtout notre État congolais. C'est-à-dire que quand un enfant est en sixième année ou secondaire, le mois, en tout cas, l'école la plus reculée, permettez-moi le terme, le montant qu'un parent aura à investir durant toute l'année, c'est ne pas moins de $800. Pas moins de 800. Et dans les conditions économiques sociales de notre pays, lorsqu'un parent débourse ses montants, ce qu'il attend, c'est la réussite de son enfant, parce que le diplôme, ce n'est pas cet émail, mais une étape que l'enfant doit passer simplement. Et quand l'enfant y revient, ça, c'est une déception au niveau de la famille, surtout sur le plan financier. Et l'année qui suit, l'enfant aura même de difficultés pour obtenir du soutien de ses parents. Toutes ces conditions font qu'aujourd'hui, suite à la marchandisation de l'examen d'État, aucun parent n'accepte l'échec de son enfant. Et ce qui fait que lorsque les enfants viennent, comme le président dit, embrigadés, pour demander aux parents ce que l'école demande, tous les parents sont obligés de donner parce que ils savent que c'est par cela que les enfants peuvent obtenir. C'est ainsi que nous avions dit et bientôt nous allons faire quelques travaux de terrain pour faire comprendre aux communautés que cette histoire de « tu me donnes de l'argent, je te donne du diplôme » ruine cette société congolaise. Vous voyez aujourd'hui les sénateurs qui constituent aujourd'hui un cercle de tricheurs ou de voleurs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, toutes les grandes personnalités du pays, en commençant par le président de la République, qui l'a attesté. Donc c'est tout simplement parce que au niveau de l'école, au niveau de notre conscience du collectif populaire ou général, c'est comme ça que nous percevons les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à votre question? Puisque l'examen d'État est devenu vraiment une occasion marchande, il faut que la prise en charge de cette institution soit assurée par les trésors publics. Lorsque le gouvernement rentre dans ses fonctions, dans ses rôles, et quand je parle du gouvernement, je vous informe que nous sommes informés que le ministère du secteur de l'éducation, les quatre ministères du secteur de l'éducation, souffre plutôt du financement depuis que le gouvernement Samalou Kondé est entré en fonction. Comment, dans ces conditions, ce ministère, y compris le PST, peut agir convenablement? C'est énorme. En politique, en public, on dit autre chose, mais sur le plan institutionnel, c'est autre chose qui est faite. Donc, si les trésors publics financent convenablement, à la hauteur des attentes et des défis, l'organisation de l'examen d'État, ça va garantir un meilleur accès et prévenir contre tout abandon dû aux frais de participation. Parce qu'à cause des frais de participation, les enfants sont stigmatisés, les enfants sont sous pression, les gens pensent beaucoup plus à l'argent qu'au savoir. Et deuxièmement, il faut veiller au respect des textes légaux régissant l'examen d'État, notamment ce qui concerne les choix et les critères des surveillants. Mbuta Diaté l'a dit ici. Et l'année passée, ceux qui ont battu les records des recommandations, c'était les PPRD et l'UDPS. Ils avaient battu les records des recommandations. C'est absurde dans une république que les surveillants soient recommandés. Si vous suivez ce qui se passe au niveau de Kivu, où l'Assemblée provinciale s'est arrogée, on ne sait pas par qui, rédiger un édit sur l'organisation de l'examen d'État, alors que ce dernier est une institution qui relève de la compétence du pouvoir national, c'est-à-dire que l'État est défaillant. Quel genre de députés provinciaux qui n'arrivent pas à comprendre les choses? Simplement parce qu'ils visent le jus qu'il y a derrière l'examen d'État.
Bien, donc, un instant, Serge Bondédi, on va accueillir Roland de Bounia. Bonjour Roland. Roland, vous êtes à Bounia, bonjour. Allô, Roland.
Je voulais donner un témoignage concernant ce qui se passe dans notre province.
Oui.
Et moi, j'ai été déjà enseignant quelque part. Alors, si on parle de corruption, il passe aussi de la part des parents, parce qu'un parent m'avait amené. Mes parents m'avaient amené et monté comme ça après que j'ai permis à son enfant d'aller ici. Puisque le niveau de son enfant était déjà bas, les parents d'abord savaient que son enfant n'allait pas réussir. Et si il m'a amené quelque chose, mais moi, curieusement, j'ai pris, mais les codes, quant à ce qui concerne le poids de l'enfant, je n'ai toujours pas donné le point, mais la part effectivement échoué à l'examen d'autres. Les autres sont très bien aussi, pas seulement les autres.
Bien, merci Roland qui est enseignant. Il confirme que les parents aussi participent à la corruption parce que il avait un élève faible et le parent est venu le voir pour lui donner un peu d'argent afin de faire réussir l'enfant. Il a pris l'argent, mais il a donné les cotes, la cote réelle, et cet enfant avait échoué. Monsieur David Yatizoua.
Oui, je vous écoute.
Vous avez suivi les témoignages d'un enseignant de Bounia par rapport à certains parents qui sont impliqués dans la corruption, dans la tricherie.
Dans toute corporation, il y a les marginaux qui ne manquent pas. De là à déduire que ce que ce parent-là a fait à un enseignant de Bounia, c'est ce qui se fait à travers toutes les écoles, à travers tous les parents de la République, c'est faux et archi faux. Et d'ailleurs, déjà, pour ce genre de parents, je présume que ce sont les élèves qui passent d'une école à une autre, achetant des bulletins à gauche, à droite, pour passer des classes. Quand bien même il n'a pas réussi, c'est comme ça quand il arrive en dernière année, son niveau est plus que déplorable. Mais c'est là aussi que nous devons insister pour que le bulletin modèle unique édicté par le pouvoir central soit le seul bulletin qui soit pris en considération à la fin des études d'une année scolaire. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux. Savez-vous, monsieur le journaliste, que nous déplorons chaque fois le fait que les gens nous imputent des procès d'intention pour rien. Si Serge Bondedi, que je salue aussi, peut se renseigner auprès de tous les coordinateurs nationaux qui siègent avec nous au jury national pour délibérer des résultats à promulguer, il se rendrait compte que Diaté Zompongi qui défend les parents est le premier qui s'oppose à ce qu'on bonifie les points des élèves pour que, par exemple, un élève n'a eu que 46%, mais on lui accorde 4% pour que ça monte à 50% et qu'il puisse avoir un examen d'État. Parce que quand nous allons au jury, vous verrez que le taux de réussite est faible. Mais avec ce problème-là de bonification, on doit ajouter des pourcentages. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élèves, vous allez voir, l'école a réussi, 50% des élèves, mais en réalité, ce ne sont pas des points mérités. Donc, moi, tout en étant parent, c'est moi le seul qui exige au niveau du jury national que les points réussis par l'élève soient les points promulgués et non des points bonifiés. Donc, c'est pour dire jusqu'à quel point nous avons une éthique morale et professionnelle que beaucoup n'ont pas.
Merci, monsieur Diatézoua. Un instant. Oui, il n'y a pas de problème. Un moment, le temps d'accueillir un auditeur, Maître Jean Noé de Tchikapa. Maître, bonjour. Maître Jean Noé, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Oui, non, on vous écoute. Quelle est votre question?
Mon problème est celui-ci. Vous posez la question de savoir comment on peut supprimer ce système.
Comment prévenir la tricherie, lutter contre la tricherie?
Il faut arrêter et révoquer tout préfet, tout chef d'établissement qui demande un excédent qui les frais de l'État. Par exemple, 45 000, tout préfet qui demanderait...
Mais ça va, Bic Rouge.
Arrêter et révoquer de son service, parce que ce sont eux, en complicité avec les inspecteurs, qui sont en train d'organiser cette
tricherie.
Donc, ce système. système destructif de notre pays. L'enfant a un diplôme, il ne connaît pas s'exprimer en français. Il attendait seulement ses laboratoires, ses suivis organisés par les chefs d'établissement. Et c'est le moment pour les chefs d'établissement de s'enrichir indûment. On doit seulement arrêter les députés nationaux et les consorts, les politiciens qui détournent l'argent. Pas les chefs d'établissement qui organisent ces systèmes malsains. C'est ça mon problème, ma préoccupation. Arrêter tout préfet, tout chef d'établissement qui demanderait un excédent sur les frais de l'État, exigés pour la dissertation et les autres demandes.
Ok. Serge Bondé dit, votre réaction.
Le président a abordé la question du jury national de l'examen d'État. Vous savez, cette histoire des jurys, personnellement, je n'ai jamais pris part à ces jurys. Je suis heureux d'attendre que le président prend cause de bonnes valeurs pour la réussite des enfants, parce que le taux est toujours faible, et ça c'est vrai, le taux est toujours faible, et c'est ici le lieu de dire que on doit cesser avec la politisation de l'enseignement. Vous savez, il y a des diplômés de l'alternance dans notre pays, tout comme il y a eu les diplômés des 1 plus 4. Donc, bref, le jury national, au lieu d'être véritablement un jury, les gens sont là, au-delà de bénéfices de tout ce qu'il y a comme avantage, pour simplement permettre à ce que les politiques se construisent une célébrité sur le taux de réussite exponentielle des candidats à l'examen d'État. Ce n'est pas sérieux pour un pays qui veut être dans l'orbite de pays émergents.
Serge, il y a un auditeur qui a proposé de révoquer. Si on attrape un préfet qui demande aux enfants l'argent de suivi, il faut le révoquer et puis les traduire en justice.
Au-delà de préfets, les autorités au niveau supérieur. Vous savez, parfois, les préfets sont le plus aussi marginalisés. Laissez-moi un peu prendre leur cause. Ils sont souvent mis au devant de la scène, mais ils sont instruits pour poser certains actes. L'auditeur a parlé, il a pris la défense des frais fixés par l'État. Mais disons-le, soyons sérieux. C'est quoi ces frais de l'État? Le 16 000 pour imprimer les items, je crois qu'un jour je viendrai au studio avec ces modèles des items.
Oui.
Ce sont de papier pellure, monsieur Jody.
Serge Bondé, on est arrivé à la fin de cette émission. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement?
En quelques secondes, aujourd'hui, nous sommes dans une catastrophe en ce qui concerne l'examen d'État.
Oui.
Il faut qu'il y ait la solidarité gouvernementale, parce qu'il y a des réponses qui doivent venir de plusieurs ministères au sein du gouvernement. Il faut qu'il y ait cette solidarité. Et la première des réponses, c'est la prise en charge par le gouvernement, par les trésors publics de l'examen d'État. Il faut faire comprendre aux communautés les dangers qu'il y a lorsqu'on accompagne la fraude,
Merci Serge. Voilà, sensibiliser la communauté par rapport au danger de la fraude. David Yatezoa, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la lutte contre la tricherie?
La lutte contre la tricherie doit commencer par le démantèlement du système en place qui veut que tous les directeurs, les inspecteurs qui sont devenus des promoteurs d'écoles privées agréées envoie des surveillants, non pour aller mettre la rigueur dans la passation,
mais pour aller se faire de l'argent.
Justement, leurs élèves, et pour qu'ils puissent avoir le 100%.
Merci.
Donc,
David Yatezoa.
Il faut démanteler cela.
Ces réseaux-là.
Et les parents
D'accord.
doivent être dans chaque salle de passation.
Voilà, les parents doivent être là dans les centres pour surveiller. Bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.